Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et comme tous les dimanches de 22h à 23h, c'est la causerie. La causerie, c'est qui ? Bah, la causerie, c'est Fab.
Bonsoir.
La causerie, c'est aussi Clara.
Bonsoir et bonsoir Jean-Yves.
C'est ça, bonsoir. Alors, comme à notre habitude encore, on est en différé, n'est-ce pas ? On n'est pas en direct des studios, je vais y arriver. Donc c'est un petit peu difficile, non je déconne. Donc voilà, donc pour joindre la causerie, on va quand même vous le rappeler, c'est toujours lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. On a aussi évidemment un espace blog, merci, oh là là.
Ça va être dur.
Alors l'espace blog, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. De toute façon, dans votre petit moteur de recherche, vous tapez la causerie Canu et vous trouverez à peu près la causerie là où elle est, c'est-à-dire ce blog, mais aussi sur des espaces plus ou moins sociaux, commerciaux. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit.
Oui.
Bon, et bien alors on va commencer, c'est Fab qui commence à nous causer.
Alors, on se partage un micro avec Jean-Yves parce que pour vous expliquer, on enregistre quand même presque dans les conditions du direct, dans les studios de Radio Canu, mais à l'arrière de votre radio préférée. Et on est samedi, je ne sais plus combien, mais on est samedi en tout cas. Voilà, plus personne ne sait quel jour on est, donc c'est très
pratique. On s'en fiche un peu, on est la veille de l'émission.
Voilà. Et donc, du coup, je vais vous parler comme si on était le soir, parce qu'on n'est pas le soir pour nous. Mais donc, ce soir, moi, je vais vous parler de deux réformes. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle plus précisément les destructions d'acquis, comme on le souligne souvent dans la causerie. Voilà. Donc, je vais donc vous parler de la casse de l'assurance chômage et de la casse des retraites. Alors, je ne vais pas entrer dans les considérations techniques trop poussées. Hein. Cela serait sacrément fastidieux de le faire maintenant. Et de toute façon, on aura de toute manière l'occasion d'en revenir sur chacune des réformes dans les mois qui viennent, malheureusement, vu que le sujet est parti pour durer quelques mois. Mais je vais plutôt en fait, vous parler de ce qui entoure ces réformes et de pourquoi Macron sait qu'il peut les lancer ou du moins les évoquer aujourd'hui sans trop de difficultés. Alors, on va commencer par la casse de l'assurance chômage. Hein. Vous le savez, il y a de nouvelles règles qui sont mises en place pour l'assurance chômage. Et même si le Conseil d'État a retoqué la mise en place du nouveau calcul de l'indemnisation, il n'a pas invalidé la réforme de l'assurance chômage, il ne faut pas croire. Donc, le reste de la réforme reste applicable à part deux autres articles, mais qui finalement sont assez anecdotiques, je dirais, par rapport à ce qui a été réformé. Alors, pour juste faire un petit rappel rapide, aujourd'hui, le Pôle emploi peut donc vous imposer de prendre un emploi au bout d'un certain nombre de temps quand il estime que vous ne répondez pas au critère qui est celui d'un bon travailleur. Et de la même façon, on peut vous forcer ou du moins vous inciter très fortement à aller faire des formations dans les métiers dits en tension. Alors aujourd'hui, c'est notamment les métiers du soin, les métiers de l'aide à la personne, la restauration et le bâtiment. Voilà.
Et je rajouterais presque, parce que pour celles et ceux qui regardent la télé, oulala, l'objet du mal dans les milieux militants, mais à la télé, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des spots en ce moment de la relance. Et je me dis que c'est des... l'agriculture, l'ostréiculture, enfin voilà, certains milieux plus, enfin un peu plus que ceux que tu as énoncés. Oui. C'était juste ça que je voulais préciser.
Voilà. Donc en fait, on voit la campagne de com est lancée et le système est mis en place à Pôle emploi pour être effectif à partir du mois de septembre. Donc ça va assez vite globalement. Donc comme j'avais pu en parler, cette réforme elle a un but simple, rendre le chômeur ou la chômeuse responsable de son sort et mettre la culpabilité sur ses épaules. Très clairement, on est dans l'idée que c'est la faute du chômeur s'il est chômeur. C'est donc une réforme purement libérale, empreinte d'un bon vieux fond de vision bourgeoise et religieuse du travail. On est là dans la continuité des réformes précédentes qui sont finalement qu'une façon claire et simple de renverser la vision du monde. L'employeur, cette pauvre victime de la fainéantise des salariés profiteurs du système. Et très clairement, on est dans cette logique-là. Clairement, toute la casse est mise en place pour que vous soyez emmerdé d'être au chômage, mais pire, que vous soyez à terme obligé de prendre n'importe quel emploi. Cette vision du monde, malsaine au possible, est ce qui dirige les agissements des politiques et qui impose cette vision du monde. Pour eux, elle est assez simple. Ils sont dans une vision capitaliste et élitiste du monde, où ceux qui ne trouvent pas ne cherchent pas, et où les accidents de la vie n'existent pas. C'est le fameux « moi, pour vous trouver un emploi, je traversais la rue, vous allez en trouver un ». Voilà, on retombe là-dessus. Alors maintenant, j'ai passé à la case des retraites. Donc pour les retraites, comme nous avions déjà pu le démontrer dans l'émission, il est clair que le but est pas tant que est finalement que tant que vous pouvez tenir debout, vous allez travailler. Mais c'est un but purement idéologique. On n'est pas du tout dans autre chose que attendez, on va quand même pas passer du temps à l'oisiveté. Ça c'est réservé aux gens qui sont millionnaires. Les pauvres, il faut vous travailler. La logique qui prévalait lors de la création des retraites, je vous rappelle, c'est-à-dire c'était le fait de partager les gains de productivité et de ne pas travailler toute sa vie. C'était ça l'idée des retraites au départ. Et on voit que ça semble bien vite oublié, y compris par une partie de la gauche qui aujourd'hui nous explique qu'on est quand même en très bonne santé à 65 ans, pourquoi on s'arrêterait de travailler ? Peut-être que les gens qui vous disent ça, c'est parce que ce sont des politiques professionnelles et qu'eux aimeraient pouvoir se présenter aux élections jusqu'à 80 ans. Mais n'y voyez pas de lien direct. Voilà. Et en fait, on voit bien que cette idée et cette logique de travailler moins, finalement, parce que la retraite, je vous le rappelle, c'est l'idée de travailler moins, c'est la réduction du temps de travail sur la vie, elle est oubliée, enterrée par la bande de petits bourgeois qui dirigent la France aujourd'hui. Ainsi, dans leur vision assez malade du monde, l'humain serait fait pour travailler tout le temps, quelle que soit sa condition, et de toute façon, on se fiche de son envie. Parce que je vous rappelle que le travail vous est imposé, jusqu'à preuve du contraire. Rares sont les gens qui font un métier qu'ils aiment, et rares sont les gens qui peuvent dire « tiens, moi lundi, j'y vais pas ». Voilà, par exemple. Donc, selon le gouvernement actuel, il y aurait un risque d'effondrement des caisses de retraite. Alors, nous avions déjà démontré dans l'émission que cela est faux. Et comme je suis une grosse feignasse, parce que moi, je le revendique, je vous invite à aller réécouter les émissions qu'on avait faites. Mais c'est un argument qui est mis en avant aussi bien à gauche qu'à droite. Et c'est ça qui est plus choquant, c'est qu'à gauche, on ait ce genre d'argumentaire. Pour justifier de faire se plier au patronat toujours plus de monde. Car la logique est que sans patron, point de travail. Et évidemment, sans travail, vous n'existez pas. On est bien d'accord. Voilà. Oui, on en est là, en fait. Et oui, clairement. Pourtant, bien des études économiques démontrent que non, le système actuel, dit par répartition, n'est pas du tout au bord de l'explosion et que si nous manquons aujourd'hui d'entrée d'argent, c'est surtout parce que les choix politiques faits vont dans le sens d'un affaiblissement de la solidarité collective pour obliger les gens à prendre des assurances privées en plus. Voilà. Voir, pourquoi pas, un jour, faire basculer l'ensemble du système dans une gestion privée. C'est donc bien une vision politique des choses et pas uniquement une vision économique des choses. Voilà. Mais alors, du coup, pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que ça ressort à ce moment-là ? Alors, vous le savez, on vient de traverser une période de Covid et finalement, les bourgeois, comme tout le monde, ils ont étudié un petit peu cette période et ils se sont dit « quand même, on va en tirer quelques leçons ». Alors, la période que l'on vient de traverser, elle a été riche d'enseignements pour les plus riches. Au départ, c'est quand même la solidarité qui a prévalu. On applaudissait les soignants, des initiatives étaient mises en place pour s'entraider malgré la maladie, les fameux paniers suspendus, si tu as les moyens, tu mets quelque chose, si tu n'as pas les moyens, tu prends quelque chose, par exemple. On a vu que les systèmes de partage étaient plutôt vus de façon positive. On peut dire que, pour le coup, là, pour les bourgeois, c'était un peu flippant à ce moment-là. un autre monde était finalement possible, un monde d'après différent de celui qui était avant, où apparaissait plus de solidarité, plus d'humains, où les gens n'auraient plus envie de faire du travail le cœur de leur vie, vous voyez, parce que bon, bah ouais, quand on prend goût à faire des vidéos pour faire marrer les copains, on se dit, putain, finalement, c'est marrant de faire des vidéos pour faire marrer les copains plutôt que d'aller bosser 10 heures par jour. Mais je vous rassure, ils ont été bien vite rassurés dès le second confinement. C'est bien l'égoïsme qui a prévalu majoritairement dans la société. Fini les applaudissements de soignants, hein, parce que voilà. Mais plutôt, hein, mais ils font chier ces soignants. Hein. C'est à cause d'eux qu'on est reconfinés. Combien de fois on l'a entendu ? Pareil pour la solidarité. Si les dons étaient plus nombreux pour les associations, ça c'est vrai, il a été clairement posé que c'est dans les 6 premiers mois de la crise qu'ils ont été plus nombreux et que depuis, ils ont même tendance à s'atrophier. C'est-à-dire que ben, ouais, y en a marre de ces feignasses à qui il faut donner de l'argent pour qu'ils bouffent, hein, quand même. Et aujourd'hui, ils ont même tendance, dans certains cas, à se raréfier. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des associations qui tirent la sonnette d'alarme parce qu'elles disent bah, « Attendez, la pauvreté n'a pas diminué, elle a même augmenté. Et nous, aujourd'hui, bah, on n'a plus les dons suffisants pour couvrir les besoins. » Et puis, on voulait danser encore. On voulait pouvoir aller au théâtre, sortir en boîte de nuit, voir des films. Et puis d'un coup, les morts ont été oubliés, minorés, niés, même par beaucoup. Et quand le vaccin est arrivé, il a été assez flagrant que l'élan de solidarité était tari, vu le peu d'empressement à aller se faire vacciner qu'ont eu les Français. Et là, en fait, c'est le signal pour les bourgeois. Il est temps de passer à des réformes ultralibérales et basées pour le chacun pour soi. La société est prête. Parce que oui, il ne faut pas prendre les dirigeants pour des cons. Si à quelques mois d'une élection présidentielle, Macron se sent assez solide pour lancer l'idée qu'il va lancer une réforme des retraites, qui devrait... en théorie, être impopulaire, c'est bien parce qu'il sait qu'il peut se le permettre. Qu'en face, il n'a pas aujourd'hui une masse critique qui lui fasse peur. Parce que la population est très majoritairement en mode « j'en ai rien à foutre des autres, à part ma famille, et moi, je veux partir en vacances, le reste, rien à branler ». Voilà, pardon pour l'expression, voilà. Mais bon, et on, je vous rappelle qu'on peut branler un clitoris. Pourtant, comme le soulignent plusieurs économistes, le problème n'est pas tant le nombre de chômeurs ou de retraités, mais bien l'argent que l'on veut mettre ou pas dans les caisses en réalité. Depuis des années, le patronat est exonéré de bien des cotisations sociales au nom du maintien de l'emploi. On a pu voir à quel point ça ne marchait pas quand même. Hein. Et pourtant, bah, ça continue, on continue à nous dire « ça fonctionne, donc on va continuer à exonérer de cotisations sociales ». Je rappelle par exemple que jusqu'à 1,6 fois le SMIC, vous ne payez pas de cotisations sociales. C'est pour ça qu'en France, les salaires sont maintenus aussi bas. Voilà, il y a un lien à tout ça. Si le patronat payait les cotisations qu'il doit, et si, par exemple, était prélevé des cotisations sur tous les métiers de sous-traitance, du livreur au chercheur sous contrat, hein, parce que c'est tout de la sous-traitance, nous pourrions partir à la retraite tous et toutes à 55 ans, avec l'équivalent de notre plus haut salaire de notre vie et avec une revalorisation de 1% par an. Voilà, et ben c'est bien un choix politique, encore une fois, de ne pas aller chercher cet argent. Ouais, vas-y.
C'est surtout, en plus, je ne sais pas si tu en parles après, mais on a aussi eu quelques chiffres qui sont sortis de, par exemple, Bernard Arnault, par exemple. Bah, lui, durant la période Covid, je crois qu'il a fait plus 62 milliards. Donc, plus 62 milliards. Juste, il t'en prend déjà rien qu'une partie. Alors que, bon, moi, on est d'accord, hein, je serais pour qu'en fait, il n'existe plus et que cette richesse n'existe plus et soit mise au service de tout le monde. Mais si, ne serait-ce que tu prends mais une miette sur tous ces trucs-là, en fait, tout notre système, il retombe à peu près à niveau, en fait. Donc, c'est là, encore une fois, ça rejoint ce que tu dis, c'est absolument politique de vouloir saigner toujours plus les plus précaires ou en tout cas pas les plus riches. Pour laisser s'enrichir les bien plus riches. Quoi.
Et bah d'ailleurs, ça tombe bien parce que je vais rebondir sur les caisses d'allocation chômage. Hein. Si de la même façon, les caisses d'allocation chômage seraient pleines, si de la même façon, le patronat n'était pas exonéré des cotisations afférentes à celles-ci. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on creuse un déficit de façon purement politique et choisie. Encore une fois, on va dire beaucoup le mot politique, c'est pour que vous compreniez que c'est bien des choix de société qu'on a là. Il serait alors possible, hein, d'ailleurs, d'envisager de pouvoir indemniser une personne au chômage 3 ans à la hauteur de son dernier salaire, tout en versant l'entièreté des trimestres de cotisation à la retraite pendant la période de chômage, au lieu de n'en verser que la moitié. Vous voyez, hein, quand même, comme ça a un des impacts, les choix qu'on fait, et c'est un impact important. Donc on le voit, hein, ce choix politique global, est-ce qu'il guide tout cela ? Et encore une fois, c'est vraiment une vision de la société. Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de vision de société. Et il ne suffira pas de dire que ces gouvernants, ils sont méchants, hein, pour que cela change. Moi, je vous rassure, ça ne marchera pas. C'est bien en fait un travail de fond, hein, que nous devons entamer pour changer la vision de la société, pour réexpliquer qu'en fait, de l'argent, il y en a. Et il y a un slogan qui existe, hein, de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Bah, il est très vrai, ce slogan, de l'argent, il y en a, on peut aller le chercher. Et qu'il faut qu'on réfléchisse à mettre le travail de côté et pas au cœur de la société. C'est-à-dire que le travail, oui, c'est utile collectivement, mais non, ça ne doit pas être ce qui est au cœur de nos vies et ça ne doit pas nous définir. Et je dois avouer que quand je vois les dérives de la gauche en ce moment, hein, qui semblent courir après la droite et l'extrême droite, moi je suis plus qu'inquiet de ce qui risque de se passer dans les mois et années à venir, si même les forces dites progressistes ne sont plus capables de défendre la logique de solidarité. Voilà. Et là, on a un vrai problème quand on sort de cette logique-là. Alors, mais loin de baisser les bras, hein, nous, on continuera à la causerie à rappeler cette évidence. L'humain n'est pas fait pour travailler. Et clairement, pas pour être asservi par un contrat de travail ou pire. Ça, nous, on est clair là-dessus. Il n'y a pas d'avenir radieux dans une société où les maîtres existent. Ça, nous, je pense que la causerie, on est à peu près d'accord là-dessus. Et donc, on vous rassure, on sera toujours là pour tenter le combat. Parce que oui, ça ne va pas être simple, mais il ne faut pas commencer à se dire c'est perdu d'avance. Ça, c'est ce qu'ils veulent qu'on croit. C'est à nous de nous empowerer, comme diraient certains, de remettre un petit peu d'aplomb et à flot pour se dire que c'est pas si compliqué que ça finalement et que même économiquement et même sans sortir du système capitaliste, il y a moyen de faire mieux que ça et sortir du capitalisme serait encore mieux. Mais ça, c'est l'étape d'après. À chaque pas suffit sa peine.
Je voulais juste rebondir quand même, et ça aussi, c'est se rappeler en fait que quand on dit l'argent, il y en a dans les caisses du patronat, c'est l'argent que nous créons. C'est nous, en fait, quand on est exploité, qui créons les richesses. C'est nous qui ramenons la thune, en fait. Donc, c'est juste qu'ils ne nous donnent pas du tout à la hauteur, ou en tout cas, on ne prend pas à la hauteur des richesses qu'on crée, en fait. Donc, ça aussi, il faut arrêter de croire que le patronat s'enrichit tout seul, comme ça, par une action du bon Dieu ou de je ne sais pas quoi. Non, en fait, la thune qu'ils ont, c'est nous qui la créons, en fait. Donc, ils vivent grassement en nous volant notre thune, en fait. C'est ça, la réalité. Et après, sur la notion du travail, effectivement, c'est cette centralité du travail et cette réalisation par le travail, il y a quand même quelque chose. Enfin, je veux dire, il y a quand même des nazis qui disaient « le travail rend libre ». À un moment donné, on ne s'est pas réinterrogé quand même sur le travail. Et sur aussi, on peut aller sur l'autre versant rouge, écarlate, qui s'appelait le communisme, où le travail était quelque chose de la fierté ouvrière, tout ça. Et bien là aussi, en fait, j'ai envie de vous appeler à pisser au cul de cette fierté ouvrière, parce qu'il n'y a pas de fierté à être exploité. Et vous pouvez être fier à la rigueur de ce que vous réalisez, mais il n'y a pas de fierté à avoir d'être exploité. Par contre, il y a une forme de solidarité à avoir entre tous les exploités. C'est ça, en fait, qu'il faut qu'on vise. Et quand tu parles de, effectivement, il faut qu'on se remobilise, etc., je pense que ça demande à ce qu'on se réinterroge sur qu'est-ce qu'on veut, en fait. Et là, il y a quand même, je pense, des choses qu'il va falloir réinterroger, mais radicalement, quoi. C'est-à-dire une société du travail, mais là où il n'y en a pas pour tout le monde, ce qui veut donc dire que le chômage sert aussi à foutre la pression sur ceux qui travaillent pour leur diminuer en tout cas les salaires ou en tout cas pour pas les augmenter. En fait, ils sont toujours en train de nous diviser les uns les autres, les unes les autres, alors qu'en fait, on est beaucoup plus en lien et on a beaucoup plus de choses en commun entre personnes exploitées au chômage ou au RSA ou en contrat de précaire ou en auto-entrepreneuriat, etc., que vous en aurez jamais avec votre patron, que vous aurez jamais avec des politicards. Donc je pense que c'est aussi à nous individuellement et collectivement, parce qu'individuellement ça ne sert à rien, en tout cas c'est bien de penser individuellement, mais il faut le penser aussi collectivement, il faut repenser absolument toutes ces choses-là, je pense fondamentalement, parce qu'on réinterroge des choses qui... il se fout de ma gueule, Fab. On réinterroge des choses qui sont des fondements, mais intouchables, en fait, de nos sociétés. Genre, le travail, on le réinterroge pas. Mais alors qu'en fait, je pense qu'il faut absolument... c'est une des oppressions, et une des oppressions les plus courantes, quoi. Enfin, c'est celle qu'on connaît tous les jours. Enfin, bref.
Alors, je me moquais pas du tout de Jean-Yves. J'étais juste en train de me dire que j'aurais mieux fait d'écrire ma chronique comme ça. Là, c'est tout. On fait une petite coupure musicale ? Allez. vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org et même, ou même je ne sais pas, peut-être que vous avez des, depuis que vous êtes vacciné, la capacité de recevoir la radio dans votre tête directement, d'aller savoir. Mais en tout cas, vous venez d'entendre Marie-Paule Bell. Et oui, c'était Marie-Paule Bell avec Bon Entendeur et c'était L'amour dans les volubilis. Et moi, je vous invite, parce que les volubilis, c'est le moment, hein, c'est l'été, c'est maintenant, à faire l'amour dans les volubilis. Vous allez voir, c'est des fleurs très sympas. Voilà, voilà. Et donc, on continue cette émission en parlant d'un gars qui... Alors, juste, on va prévenir, si vous voulez prendre un sac à vomi avant la chronique de Jean-Yves, allez-y.
Oui, après vous pouvez aussi apprendre à vous retenir parce que c'est pas le pire, hein. Mais c'est pas le meilleur non plus, mais bon. Donc ce soir, ouais, effectivement, j'ai eu envie de parler d'un politicard local, chose qu'on fait assez rarement, voire jamais en fait, dans la causerie. Et alors, si à Lyon, on a évidemment perdu Gégé, hein, aka Gérard Collomb, ceux et celles qui nous restent ne sont quand même pas si mal que ça, quand même. Il y en a certains, c'est vraiment des vainqueurs. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur Super Lolo, aka Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aussi Aura, hein, c'est tellement joli. Alors, chevalier blanc, hein, défenseur des veuves et des orphelins, grand défenseur de la justice sociale. Non, je déconne, en fait, c'est pas du tout ça. Lui, son credo, c'est plutôt la sécurité et la sécurité, parce que vraiment, la sécurité, c'est important. Et sans oublier qu'il est aussi un grand défenseur du parler français, avec un accent anglais, parler français avec sa clause Molière, bon, qui a été enterrée hein, depuis. Parce que oui, lui, pour lutter contre le travail qui venait de l'étranger, il voulait que tout le monde parle français. Mais il sait qu'il y a des gens, ils parlent différentes langues que le français, même en France, en fait. Non, je pense pas. Donc voilà, c'est aussi un défenseur du petit Jésus. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un petit bonhomme qui a été cloué sur une croix. Et aussi de l'assaut SOS Chrétien d'Orient. Une petite assaut assez sympathique et proche de l'extrême droite. Et il aime aussi beaucoup, pardon.
Non, vas-y.
Et il aime aussi beaucoup le travail et les traditions, et enfin bon, la liste est un petit peu trop longue, mais je pense que vous avez cerné le personnage.
Ça lui fait 4 points communs avec Vianney.
C'est vrai en plus. C'est vrai. Et je vois Clara qui surveille
le potard.
Le potard, parce que ça, mes rires font un peu bugger les machines. Pardon. Donc évidemment, alors, il est con. Alors non, on va se reconcentrer sur Laurent Wauquiez, on laisse Vianney de côté, bien de côté. Hein. Alors bon, évidemment, il vient pas d'arriver, hein, Laurent Wauquiez, à la tête de la région, hein, il occupe ce poste depuis 2016, rendez-vous compte, et aux dernières élections, il a été réélu haut la main, enfin, avec seulement 33% de participation, hein, ce qui fait à peu près 1800 votants sur 5 millions, bon... Il n'y a jamais rien qui invalide une élection, faut croire. Hein. Bref, et moins d'un million ont voté pour Wauquiez et sa clique, ce qui représente quand même 50%. Hein, donc, et ce qui leur donne tout de même droit à 28 sièges de plus que la mandature précédente. Donc, oui, ils sortent quand même vainqueurs haut la main. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, son credo, c'est la sécurité, hein, si vous ne l'aviez pas compris. Si, c'est ça, son credo, c'est la sécurité. Alors d'ailleurs, certains et certaines en fait aiment à rappeler que bah, la sécurité n'est normalement pas du ressort de la région. Qu'à cela ne tienne, Lolo, super Lolo, donc Wauquiez, hein, il prévient, je le cite, « Ceux qui disent que c'est pas une compétence de la région se cherchent des excuses pour ne rien faire. » Bon, je suis pas très bon dans le doublage, enfin, dans le... Non, mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, le gars, il est malin. En fait, il va fliquer tout ce qui est du ressort de la région. Alors, il a déjà commencé, hein, rassurez-vous. Les écoles, les trains, les bus, certaines aides sociales, etc., etc.
Je crois que c'est les lycées, pas les écoles.
Ah oui, pardon, oui, pardon. Tu fais bien de me corriger, ce sont, oui, les lycées. Fin mai, hein, il présentait, donc avant cette élection, donc dans la campagne électorale, il présentait, je cite encore une fois, son plan d'action contre l'insécurité. Oui, parce que rappelez-vous, hein, son credo, c'est la sécurité. Alors, il nous parlait de boucliers de vidéoprotection, de brigades régionales de sécurité et autres, suppression des aides aux parents de délinquants. Il avait aussi déclaré qu'il souhaite proposer des travaux d'intérêt généraux pour les délinquants condamnés. Alors, bon, Wauquiez, au-delà de la sécurité, qu'il apprécie beaucoup, il aime aussi les flics. Alors, comme le fait que, bon, il leur offre les transports gratos en TER ne suffisait pas, il s'est dit, tiens, je vais encore un petit peu les cajoler parce que quand même, il faut les aimer. Et bien, alors, il compte maintenant financer l'équipement des polices municipales, et des lieux d'entraînement pour les forces de l'ordre. Ah, on vous l'avait dit, hein, qu'il aimait la sécurité. Donc, il a également évoqué son projet de distribuer des boutons d'urgence aux 130 000 commerçants de la région, rien que ça, et des boîtiers d'alerte aux femmes victimes de violences conjugales. Ou comment, hein, c'est ce que je me disais, c'est ou comment couvrir en fait son goût pour le tout sécuritaire en y glissant quelques mesures en protection des femmes victimes de violences patriarcales. Eh bien, Wauquiez sait faire. Et ce qui est assez dérangeant, c'est que finalement, ça ne dérange pas grand monde. Parce que pour moi, il y a un petit peu de l'utilisation finalement des violences que subissent les femmes pour finalement glisser ça dans un tout sécuritaire qui dépasse largement les violences patriarcales, quoi. C'est vraiment... c'est un tout sécuritaire, quoi. Donc, comme je le disais précédemment, il a été réélu. Et dès son premier discours, Laurent Wauquiez a annoncé la création d'une nouvelle commission consacrée à...
la sécurité.
Mais oui, tu es trop fort. C'est incroyable. Effectivement, consacré à la sécurité. Et la première délibération, programmée avant la fin du mois de juillet, portera également sur...
la sécurité.
Oui, mais c'est formidable. Vous avez tout compris. Et c'est génial. Voilà. Et donc... donc, un petit peu plus en détail, il prévoit quand même 30% d'augmentation des effectifs de la police ferroviaire, ainsi que 10 000 caméras de vidéosurveillance supplémentaires, si c'est pas génial. Et le chef de l'exécutif régional, Laurent Wauquiez, on le recite, souhaite aussi déployer, je le cite, un logiciel de reconnaissance faciale. Et c'est pas génial, ça ? Ça vous rassure pas toutes et tous ? Moi, je sens là les auditeurs, les auditrices, et je vois d'ailleurs Fab et Clara, ils sont épanouis, quoi. Donc voilà. Et au lendemain du second tour du scrutin, donc le lundi 28 juin, qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Wauquiez ? Il a rien attendu de l'élection de la présidence de la région. Non, il allait direct au pas de charge au centre de vidéo. Alors là, je vous cite un mot des médias de vidéo protection de la gare Pardieu à Lyon. Oui, parce qu'on ne dit plus vidéo surveillance. Non, c'est de la vidéo protection. C'est pour vous protéger. Comprenez-le. La sécurité, c'est pour vous protéger. Protéger. Enfin bref. Donc voilà. Ouais, parce que c'est en fait dans la gare de la Pardieu que en fait Wauquiez envisage de placer donc ses caméras à reconnaissance faciale. Pour terminer, parce que je pense qu'on a quand même pas parlé beaucoup trop de Laurent Wauquiez et de son goût pour la
sécurité.
Merci, c'est vraiment génial. Donc, c'est ce que je me demandais quand même, et ce que je vous invite peut-être aussi à vous interroger, c'est combien finalement de millions claqués dans le tout sécuritaire pour éviter de mettre des humains dans tous ces lieux ? Parce qu'on sait quand même que les humains, c'est un autre rapport qu'une caméra, en fait. Combien de millions dépensés pour finalement économiser sur la masse salariale ? Parce que je pense quand même qu'il faut l'interroger aussi, cette chose-là. Combien de pions, de médiateurs, d'agents dans les trains, dans les écoles, dans les gares, qu'il n'y aura pas ? Parce que finalement, foutre des caméras, ça arrange tout le monde. Vraiment, je pense, absolument tout le monde. Enfin, en tout cas, les politicards et d'autres. Parce que, on le sait, les caméras n'empêchent absolument pas les agressions. Donc, là aussi, on se dit, peut-être que les politicards peuvent se dire, vu qu'il y en aura toujours des agressions, ils pourront surfer sur ces agressions-là pour se faire toujours du beurre électoraliste et pour aux prochaines élections vous dire il faut encore mettre plus de caméras parce qu'il y a encore des agressions. Ouais, c'est sûr. Et les caméras, c'est aussi bon pour les entreprises qui en vendent. Parce que quand même, et qui en ont la gestion. Et bref, la sécurité, c'est bon pour la croissance. Parce que c'est cette croissance que tout le monde, après laquelle tous les politicards courent. Et alors, en plus, avec les logiciels à venir de reconnaissance faciale, ça permettra à l'État policier, vous savez, ce cher État aussi qui est toujours là pour nous protéger, n'est-ce pas, de bien prospérer en ayant nos gueules à toutes et tous. Mais là, encore une fois, c'est pour le bien de tout le monde, parce que c'est bien connu. D'ailleurs, moi, je vous invite, auditeurs, auditrices, à contacter des gens en Chine pour leur demander comment ils se sentent tellement bien en sécurité en Chine, où la reconnaissance faciale est utilisée à outrance et où le pouvoir communiste chinois est entré dans une note sociale, etc., etc., selon comment vous agissez, tout ça, tout ça. Donc voilà, hein, bref, en Auvergne-Rhône-Alpes, le RN n'a pas besoin d'être à la tête de la région, finalement, pour voir ses idées et ses valeurs en application. Hein. Donc, mais même pas 1 million de personnes sur 5 millions peut bien décider pour tout le monde. Ce sont les joies de la démocratie représentative. Ne l'oubliez pas. La seule voie possible hein, pour la démocratie, n'est-ce pas ? Donc c'est une démonstration de plus que les criminels ne sont pas les abstentionnistes, mais bien les votants qui soutiennent ce genre de candidat. Et juste pour terminer, hein, pour celles et ceux qui se disent « Ouf, moi, je vis pas en Auvergne-Rhône-Alpes », eh ben vous emballez pas si vite, parce qu'il se peut bien qu'un jour, Laurent Wauquiez, ce grand chevalier de la sécurité, se présente à la présidentielle. Ouais, parce que le mec, il a de l'ambition, faut pas l'oublier. Hein, il s'est fait tout seul. Il vient, voilà quoi. C'est un self-made man, n'est-ce pas ? Donc, ben voilà, c'était juste un petit portrait de ce cher président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'espère que ça vous aura plu et ça vous donnera envie, je sais pas de quoi, peut-être de vous en défaire.
De déménager.
Alors, on pourrait se dire, ouais, faut déménager. Juste, les caméras à vidéo de vidéosurveillance à reconnaissance faciale sont développées ici et là. À Nice, il y en a. Il y en a qui seront bientôt à Paris, parce que n'oubliez pas, il y a les JO qui ont bientôt lieu à Paris. Et l'idée, c'est évidemment d'utiliser cet événement-là pour développer cet outil de surveillance des masses. Donc je pense que plutôt que déménager, il faudrait peut-être plutôt abattre le système qui font que ces gens-là existent et qu'on arrête de mettre nos vies finalement dans les mains de ces gens-là parce que je pense qu'ils nous nuisent plus qu'ils nous servent.
Non mais on est bien d'accord, c'était une blagounette. Ceci dit, moi je voulais juste revenir sur la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. Alors il faut savoir qu'effectivement il y a des endroits dans le monde où elle est mise en place de façon efficiente. Dans le sens où elle fonctionne, c'est de toute façon toutes des dictatures. Parce qu'en réalité, quand vous êtes en démocratie, enfin, ce qui ressemble à une démocratie imparfaite, ou d'au moins dans des États un peu plus libres, où les libertés individuelles sont un peu plus respectées, en réalité, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas collecter. Et c'est normal. Et, voilà. Et d'ailleurs, il y a une expérience qui avait été menée dans la Silicon Valley, qui est pourtant le cœur hein, de ces idées-là, pour protéger les entreprises de la Silicon Valley, qui a été abandonnée. Parce qu'on s'est rendu compte que dans une démocratie dite libérale, ben en fait, vous n'avez pas assez de données sur les gens que vous reconnaissez. Et que même si la personne elle est fichée, par exemple, pour être un terroriste ou quelque chose comme ça, ben en fait, vous n'avez pas le droit, une entreprise privée n'a pas le droit d'avoir accès aux données aux États-Unis du FBI ou de la NSA ou de la CIA. Et c'est un peu logique, je veux dire, à un moment donné, sinon on serait dans un drôle de mélange des genres. Donc du coup... Ben, en fait, les idées qu'amènent des gens comme Laurent Wauquiez, comme Bardella pour le Rassemblement National, comme Valérie Pécresse ou des choses comme ça, ou le maire de Nice dont j'ai perdu le nom, Estrosi, voilà. En fait, les idées qu'amènent ces personnes-là, sous couvert d'être de la protection, amènent en fait des idées qui ne peuvent fonctionner que dans le cadre d'un État totalitaire qui a l'entièreté des données et qui donc ne passe ni par des entreprises privées ni quoi que ce soit, mais où en fait l'État lui-même devient une espèce de voyeur permanent. Ce que décrivait d'ailleurs très bien George Orwell dans 1984, c'est-à-dire le moment en fait où l'État a l'œil sur vous en permanence et c'est tout le temps ce que vous êtes en train de faire. Donc il ne faut pas croire qu'en fait cette idée-là amenée comme ça est juste une lubie. C'est bien que derrière il y a une vision politique de la société, une vision du monde qui est portée par les personnes qui amènent cette idée-là, parce que clairement dans le monde ça ne fonctionne que si vous êtes dans une dictature de type policière ou militaire. Ça ne fonctionne pas dans les démocraties dites libérales. Donc on a une démonstration de où se trouve la pensée des personnes qui vont vous dire on peut tout résoudre en mettant de la vidéo reconnaissance ou des choses comme ça. Parce qu'en réalité, bah, derrière cette idée-là, il y a l'idée d'avoir un contrôle total sur les individus. Et un contrôle total sur les individus, ça porte un nom, c'est une dictature. Voilà.
Eh bien, sur ces bons mots, on va passer à la musique, peut-être, qui n'est pas du tout autour de la sécurité.
T'as mal choisi ton titre.
C'est ça. À tout de suite.
À tout de suite.
Quand le premier homme ouvrit les yeux sur l'univers qui l'entourait, et quand à son oreille parvinrent les premiers murmures de la nature qui s'éveillait, il éprouva aussitôt le besoin de fabriquer de ses mains la musique dans la lumière du soleil ardente comme le feu.
And don't run no more.
La mer est en bleu en haut de rocher brun.
La musique aide à l'humanité à prendre conscience des dangers qui la menacent. La musique dans la lumière du soleil. La majestueuse harmonie de l'univers.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, et plus précisément La Causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h. On vient de s'écouter la dernière pépite d'Altarba et de son cabinet des curiosités. C'est un duo avec The Architect, et le titre c'est Orange Sea. Juste vite fait, c'est donc la fin du cabinet des curiosités d'Altarba. Il y a les préventes volume 1, et il y a les préventes en fait pour cet album qui devrait sortir, je crois, après septembre-octobre. Donc courez-y, c'est vraiment plus de 15 collaborations complètement éclectiques, etc. C'est vraiment très bon si vous aimez, et allez-y, courez-y, et ben voilà. Et ben on arrive près de la fin de La Causerie.
Oui, ou sinon vous pouvez réécouter toutes les causeries de ces derniers temps, vu qu'il a vu que Jean-Yves a passé à peu près les 15 titres du cabinet des curiosités. Donc vous pourrez les retrouver dans La Causerie.
C'est, en tout cas,
on est d'accord, c'est pas totalement faux. Mais en tout cas, on serait très heureux qu'Altarba un jour soit dans La Causerie aussi. Enfin voilà, c'est des gens qu'on aime beaucoup. Donc voilà. Moi, je voulais vous parler avant qu'on ne se quitte, en fait, de deux squats qui existent maintenant à Lyon. Alors vous savez, il y avait le collège Maurice Sèvres qui était occupé, où se trouvaient des mineurs, beaucoup de mineurs. Et donc, ils ont été répartis sur deux lieux. Un qui se trouve donc au 52 rue d'Enfer Rochereau et qui s'appelle le Chemineur. Le second lieu, là, c'est Jean-Yves qui va vous le donner parce que c'est lui qui a l'adresse.
C'est au 219 rue Paul Bert. Voilà, à Lyon, toujours, évidemment. Et ça s'appelle, pardon, c'est le Café Mineur, ok ? Donc, c'est deux lieux, alors, stratégie politique ou pas, j'en sais rien, mais on n'est pas là quand même pour caresser les politiciens dans le sens du poil. Ce grand lieu qui a été détruit, le collège, évidemment, a été éclaté. Donc, il y a eu différents lieux montés. Ces deux lieux qu'on vous cite, il y a d'autres mineurs qui sont hébergés par des personnes chez elles. Sauf que ces deux lieux, ils doivent tout recommencer un peu du début, donc ils ont pas mal de besoins. On peut vous en citer quelques-uns, mais approchez-vous d'eux et d'elles, parce que ça peut aller des tickets de métro pour les moins de 26 ans, à des jus de fruits, à du lait, des petits déjeuners, des sardines, du papier de toilette, du liquide vaisselle, des étendoirs à linge, du matériel scolaire. Enfin, il leur faut énormément de choses, donc n'hésitez pas à les contacter. Alors, comment les contacter ? Je vous dirais par les réseaux, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais peut-être qu'en allant sur Rebellion, peut-être que vous trouverez quelques infos. Ou alors c'est collegemauricesève.org. Là, je pense que vous allez trouver des infos, mais n'hésitez pas, parce qu'effectivement, alors là, c'est la période des vacances, on pense toutes et tous un peu à prendre l'air et tout, sauf qu'il y a des gens, ils n'ont absolument pas le choix, ils ne peuvent pas prendre l'air. Donc, essayons de les soutenir comme on peut. Il y a aussi des demandes d'accompagnement de jeunes, aller à du ciné, aller à Méribel Jeunage, par exemple, sortir un peu de ce milieu où peut-être ils sont un peu tous entassés les uns sur les autres, parce que on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Mais voilà, n'hésitez pas, il y a vraiment des coups de main qui peuvent être apportés selon vos moyens, évidemment. Mais voilà, n'oublions pas que ce n'est pas les vacances pour tout le monde.
Et si vous avez des pinceaux, de l'acrylique et l'envie de faire quelques travaux, les lieux sont aussi à retaper. Donc en fait, si vous voulez donner un coup de main en fait, pour retaper, si vous êtes même du métier, que comme ça, vous, pour faire une pièce, ça vous prend 3 minutes, là où moi, ça m'en prend 42 jours, n'hésitez pas, parce que franchement, ils ont besoin vraiment d'un coup de main de ce côté-là. Ils ont besoin de matos, ils ont besoin de choses qui nous paraissent parfois évidentes. Ils ont besoin d'ampoules aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais des choses en fait, pour faire de la lumière. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller les voir et aller leur donner un coup de main. N'hésitez pas à les joindre. Et je vais le dire comme ça, parce que j'ai entendu des gens qui disait à la télévision, qui pourtant était classé dans les progressistes, qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, tout ça, tout ça, tout ça. Je veux juste rappeler à tout le monde qu'en fait, en France, on n'accueille pas grand monde, en réalité. Contrairement aux fantasmes que l'on fait passer dans la presse et que font passer les politiques, en France, on est un des pays d'Europe où on reçoit le moins de réfugiés et le moins de mineurs réfugiés. On est un des pays d'Europe où la lutte contre l'arrivée de mineurs, de réfugiés est la plus dure en Europe, parmi les plus dures. Il faut savoir qu'on est classé au même niveau par moment que la Hongrie, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc il faut arrêter avec les fantasmes, il faut arrêter d'avoir peur des gens, il faut aller les rencontrer. Vous verrez, c'est des gens très sympas qui souvent ont juste envie d'une chose, être comme vous, c'est-à-dire pouvoir respirer un peu et se poser. Et juste rappeler ce petit truc-là pour répondre à ce coup de la « on ne peut pas prendre toute la misère du monde, blablabla ». D'abord, la phrase avait une suite, c'était « mais on doit en prendre sa part ». Voilà, donc il y a un moment donné, il y a ça. Et puis la deuxième chose, c'est que la France s'est construite justement, parce qu'il y a des gens qui aiment bien dire parler de la France, vous voyez, avec un grand F majuscule, elle s'est construite de migration. Et vraiment de migration. Elle ne s'est pas construite ex nihilo. Donc à un moment donné, si vous êtes... parfois fier d'être celte, rappelez-vous que les celtes n'étaient pas en France au départ. Si des fois vous dites fier d'être normand, rappelez-vous que les saxons n'étaient pas vraiment français non plus à l'origine. Si vous êtes fier d'être lyonnais, essayez de vous rappeler quand même que Lyon, c'était une énorme capitale de la cuistrerie, comme disait l'église catholique, c'est-à-dire où tout le monde baisait avec tout le monde et que ça a donné des jolis bâtards. Donc voilà, en gros, souvenez-vous de tout ça et arrêtez d'avoir peur des gens qui ont juste envie de pouvoir se poser. Les humains ne sont que des humains comme vous et moi. Donc voilà, je voulais juste rappeler que on est quand même dans un des pays qui a la politique répressive la plus dure, où on enferme des enfants dans les CRA, et ça, c'est juste dégueulasse. Donc à un moment donné, il va falloir se bouger et se réveiller, y compris à gauche qui commence à avoir des positions et des positionnements assez dégueulasses. Voilà.
Donc après ce coup de gueule, on rappelle juste donc le Chemineur, c'est 52 rue d'Enfer Rochereau, et le Café Mineur, c'est 219 rue Paul Bert. N'hésitez pas à aller les aider. Voilà. Et c'est donc là que se termine la causerie.
Oui, mais on va quand même signaler que Clara, elle nous abandonne lâchement.
Ouh
oui, elle nous abandonne lâchement pendant au moins 15 jours. Voilà, au moins, peut-être 3 semaines.
Oui, peut-être 3 semaines.
Voilà. Donc ça veut dire que, un, la technique va être super moins bien faite dans les semaines à venir, sachez-le. Et deux, quand même, bah, profite de ce moment de respiration, Clara, et ce sera avec plaisir qu'on te retrouvera quand tu reviendras.
Eh bien, merci.
Enfin, ça, c'est Fab qui le dit.
Oui, hein. Oui. Hein, merci, Fab.
T'emballes pas non plus. Hein. Bon, on va peut-être quand même se quitter là, non,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça.
Et c'est toi, je crois, Clara, je ne sais même pas, je crois, j'en suis sûr, qui annonce ce dernier titre.
Oui, et on se quitte avec Of Monsters and Men et le titre Little Talks,
et
un titre
pas...
moderne.
Voilà. Et vous êtes bien sur Radio Canu et pas sur RFM, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Je l'attendais.
Et on vous donne donc, bah, Fab et moi en tout cas, rendez-vous bah, la semaine prochaine. Clara, dans 15 jours ou dans 3 semaines.
Sans doute en direct.
Et peut-être en direct pour nous deux, effectivement. Et puis, ben, on vous souhaite une bonne semaine d'ici là. Bon courage à toutes et à tous. Des bisous. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, des bisous.
An empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stairs creak, I should sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some things I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you.
Safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.